Théologie fondamentale pour le père Philippe à Saint-Joseph le 21 février 1985.
Nous allons continuer d'entrer dans le mystère de la parole divine. Pour comprendre comment nous pouvons faire la théologie de ce mystère de la parole de Dieu. Parce que nous avions vu les diverses positions philosophiques, nous nous demanderons progressivement si on peut se servir de n'importe quelle philosophie par rapport à ce mystère de la parole de Dieu. Posez-vous vous-même le problème tout en voyant cela. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos divin, comprenez bien, le repos du Père. Et le repos du Père, c'est la contemplation. Mais la contemplation pour nous, c'est la suprême activité. Et c'est la suprême activité qui rejoint le repos de Dieu. C'est vrai, pour nous, hein, nous avons une opposition entre l'activité et la détente, c'est le repos. Quand il s'agit de Dieu, le repos, c'est sa contemplation. C'est Dieu avant la création, si j'ose dire. Hein. Vous comprenez bien. Puisque en Dieu, il n'y a pas de temps. Et pourtant, je dois dire que Dieu est avant la création. C'est extraordinaire de pouvoir dire ça. Et que Dieu n'est changé en rien par la création. Et c'est ce repos de Dieu vers lequel nous sommes conviés. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, de peur que quelqu'un ne tombe à l'exemple de cette désobéissance. Car elle est vivante, la parole de Dieu. Alors, parole vivante. Saint Thomas fait l'alliance avec l'eau vivante. Hein, la petite analogie avec l'eau vivante dans le commentaire de Saint Thomas sur Saint Jean, que nous devons aimer, n'est-ce pas ? Il ne faut jamais quitter notre commentaire de Saint Thomas sur Saint Jean. Alors, l'eau vivante. Saint Thomas oppose, à la suite de Saint Augustin, l'eau des puits, qui est l'eau morte, et l'eau vivante qui est conjointe à sa source. Le vivant est conjoint à sa source. Et donc, je peux faire l'analogie avec la parole vivante. Il y a une parole morte et une parole vivante. La parole écrite, c'est la parole morte. Et la parole vivante, et je ne veux pas dire que les juristes qui aiment la parole écrite, hein, les juristes n'aiment que la parole écrite. Ça, c'est le propre des juristes. Ils n'aiment que la parole écrite. Tant qu'il n'y a pas la parole écrite, ça ne signifie rien du tout. C'est très curieux, du reste. C'est très intéressant, parce que ça fait comprendre toute une mentalité des juristes. C'est l'écrit. Et puis, la parole vivante, c'est la parole qui est liée à la source. Alors, n'oubliez jamais ce fameux passage dans Platon, le mythe du Teute. Le mythe du Teute, c'est l'invention de l'écriture. C'est dans La République, je crois bien, qu'il y a cette très belle allégorie. Et alors, la parole vivante, c'est celle qui est liée à sa source. C'est dans un dialogue. Et Platon fait cette comparaison. Je me souviens quand je commentais ça à Fribourg, j'avais dans mon auditoire un pasteur, un jeune pasteur que j'aimais beaucoup, calviniste, qui était venu faire ses études de philosophie à Fribourg. Et à la fin du cours, il a bondi, il m'a dit « Vous avez pensé à moi pendant tout le cours ?» Alors j'ai dit « Non, je fais de la philosophie. » Vous avez montré toute la différence qui existe entre la position des calvinistes et la position des catholiques. Ah, je veux dire, très bien, j'avais très bien compris. Parce que Platon montre la différence entre l'écriture qui ne répond pas et la parole vivante qui répond. Alors, c'est ce que je vous avais dit l'autre jour, et ça, il faut le noter, et puis essayer de creuser ça, parce que c'est quand même un des grands problèmes d'aujourd'hui. Le fameux problème de l'herméneutique. Alors, on doit faire une herméneutique de la parole écrite. Je suis assez d'accord. On ne peut pas faire une herméneutique de la parole vivante, parce qu'elle répond. La parole écrite ne répond pas. Et parce qu'elle ne répond pas, ça c'est Platon, hein, c'est important. Aristote n'a pas repris ça, il l'a repris dans le Périherménéas, mais très très vite. Il a simplement montré la différence entre le point de vue de l'écriture et la parole, en montrant que l'écriture était nécessairement un symbolisme second. Le premier symbolisme, c'est la parole vivante. Et la parole vivante est symbolum de la pensée, qui est elle-même symbolum de l'écriture. Vous voyez ? Quand je pense, je suis relié à la réalité, normalement. Quand je parle, je communique ce que je pense, normalement. Et quand j'écris, c'est le vœu de stabilité par rapport à la parole. C'est fixé. C'est un écrit. C'est quelque chose qui est fixé. Et ces symboles, c'est le symbole de la parole, l'écriture. L'écriture renvoie à la parole. L'écriture ne renvoie pas tout de suite à la pensée. C'est la parole qui renvoie à la pensée. Et la pensée renvoie à la réalité. Vous voyez toujours ce circuit, parce que c'est quand même très important si on veut saisir ce que c'est que la parole divine, et si on veut saisir ce que c'est que la théologie, et si on veut saisir ce que c'est que l'herméneutique. Alors vous avez res, vous avez le nous pensant, vous avez le nous pensant. Le nous pensant qui forme au-dedans de lui-même un logos, qu'on appellera concept, qu'on appellera verbe. Verbum mentis, le verbum mentis, le verbe de l'esprit. Donc le verbe pensant, il pense à res. Et donc le logos et le concept est en référence directe avec la réalité. Le concept, il est intérieur. Quand je pense, vous ne le voyez pas. Sauf si en pensant avec une telle profondeur, vous me voyez complètement absorbé et restant dans le silence. Alors, à ce moment-là, on est tout intériorisé. Et ça, c'est le verbe intérieur. Le verbe intérieur se communique par la parole. C'est la communication. Problème de la communication, la parole. La parole est symbole du concept. Et donc, par là. Et puis alors, ensuite, l'écriture. L'écriture, c'est la parole fixée. Je ne dis pas la parole morte, mais c'est la parole fixée. Comme on dit, votre stabilité. N'est-ce pas ? Et l'écriture est en référence avec la parole. Vous voyez, c'est quand même très curieux de voir toutes ces 1, 2, 3, 4. Quatrième position. Il faut avoir ce petit chêne très très fort dans l'esprit. Il faut l'avoir et puis le penser, le redécouvrir soi-même. Hein. Parce que tant qu'on l'a pas découvert soi-même, ça ne va pas. Il faut le redécouvrir en soi. Alors vous voyez que l'écriture ne peut pas être vivante. Parce qu'elle est fixée. l'écrit. Il y a une écriture, Dieu, les tables de la loi sont écrites sur de la pierre avec le doigt de Dieu. C'est magnifique, voilà, comme expression. L'écriture, les tables de la loi, la Torah, sont inscrites sur de la pierre avec le doigt de Dieu. Et c'est inscrit sur de la pierre. C'est un écrit, la loi. Ce n'est pas une parole vivante. C'est une parole vivante fondamentalement, mais c'est écrit. Et parce que c'est écrit, il y a une stabilité. Les prophètes parlent d'une parole vivante. Ils sont liés à la source. Alors, la parole peut être une parole vivante quand justement elle est reliée à sa source. Et la source, c'est la pensée. C'est la sagesse. C'est le verbe de Dieu qui exprime la réalité divine. La res divina et la sagesse, ça ne fait qu'un. Tandis que dès que je suis au niveau de la créature, le concept de verbe n'est pas la réalité existante. Ce qu'il y a de propre en Dieu, c'est que la réalité et la sagesse ne font qu'un. Et la parole de Dieu communique cette lumière divine. Et c'est une parole vivante. Alors, je reviens au mythe du Teute de Platon, hein, le mythe du Teute. C'est quand même le premier lieu, point de vue théologique, philosophique, c'est quand même un lieu très important et très actuel. Alors, dans le mythe du Teute, Platon dit « La parole écrite, l'écrit ne répond pas. La parole vivante répond. Quand vous êtes dans un dialogue avec quelqu'un, et qui dit « Oui, oui, j'ai très bien compris ce que vous dites », et puis qui répète ce que vous dites de façon tout à fait différente. Ça arrive constamment. Hein. Vous répondez « Ah, c'est pas ça que j'ai dit, attention, vous comprenez mal. » Tandis que si vous l'écrivez sur un bout de papier, hein, je ne suis pas là pour vous dire « Ah, ce que vous venez d'écrire, c'est pas du tout ça. » Et vous l'avez écrit. Et si dans 1000 ans, on retrouve un papier en mettant court, voilà ce qu'il a dit. Et vous n'avez rien compris du tout. Mais c'est écrit. C'est comme chose très curieuse. C'est ça l'histoire. Il ne faut jamais l'oublier. Hein. Je prenais l'exemple de temps en temps pour qu'on comprenne un tout petit peu. Vous voyez, au Solchoir, il y avait un professeur de psychologie, le bon père Salman, qui se spécialisait dans la sexualité des araignées. Parce que la sexualité des araignées est particulièrement significative, elle est très liée à l'irascible de l'araignée. Il n'y a pas un animal plus irascible que l'araignée. Faites attention. Hein. C'est extraordinaire. Alors, la sexualité des araignées, c'est, paraît-il, un domaine extraordinaire, merveilleux. Alors il avait toute une bibliothèque sur la sexualité des araignées. Tous les derniers livres qui étaient apparus, la sexualité des araignées. Tout un secteur énorme. Alors vous voyez, un naufrage tout près de la Seine, le Solchoir pouvait être envahi, inondé, tout disparaît. Au bout de 1000 ans, on ne retrouve qu'une seule cellule et une part de la cellule, tous les livres sur la sexualité des araignées. À partir de là, vous émettez une thèse, je parle de Couram, vous émettez une thèse, il y avait des moines là dont leur spécialité était de réfléchir sur la sexualité des araignées. Et c'est ça l'histoire, hein. Faut bien comprendre le point de vue relatif de l'histoire, les témoignages, l'écriture. L'écriture, vous retrouvez ça, la parole vivante c'est autre chose. La parole vivante, elle est liée à la tradition. C'est le propre de la tradition de relier la parole à la source. La tradition porte la parole vivante. Et elle fait que la parole est une parole vivante, grâce à la tradition. Alors vous commencez à comprendre pourquoi Concile de Trente, Vatican II, disent les deux sources de la révélation, l'écriture et la tradition. Mais on n'explique pas le lien entre les deux, ni Concile de Trente, ni Vatican II. Ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est simplement de faire comprendre que la foi catholique repose sur les deux sources de la révélation. Et ça, il faut bien le comprendre, hein. C'est quelque chose d'essentiel, les deux sources de la révélation. La parole de Dieu, l'écriture et la tradition. Alors, je comprends très bien la réaction de mon calviniste, qui était une bonne un calviniste très intelligent. Je me souviens, c'est les premières années que j'étais à Fribourg, très intelligent. Alors, j'avais de très sympathique dominicain qui assistait à mon cours et qui de temps en temps venait me dire au père, faites attention, un jour il vous posera une question et vous ne saurez pas répondre, parce que tellement il était très agressif, notre cher calviniste. Mais je le connaissais bien, c'est un vieil ami, je l'ai invité parce qu'il est très très fort en latin. Alors il pourrait venir vous faire un cours en latin, vous allez. Il est merveilleux, j'espère beaucoup qu'il viendra un de ces jours. C'est un homme qui aime la philosophie, qui aime saint Thomas, qui aime Aristote, d'une façon fondamentale, et il était agressif. Alors à la fin de ce cours, il dit, mon père, vous n'avez pas le droit de critiquer comme ça le point de vue calviniste. Je n'ai pas fait aucune allusion, j'ai fait un cours de philosophie. Ah oui, mais il avait très bien compris la parole vivante liée à la tradition. S'il n'y a plus la tradition, il n'y a plus que l'écriture. Il n'y a plus la tradition, il n'y a plus que l'écriture. Une parole fixée, la Bible. Parole fixée. Alors, le gros problème, les écrits ont des dates, et vous comprenez très bien, l'évangile, hein, qu'à suivre le lit du Père Dreyfus, l'évangile écrit 20 ans, 30 ans après la mort du Christ. Comment l'écriture peut-elle être reliée à la source? La source, la sagesse, le Verbe incarné, le Christ. Le Christ est la source. Le Christ n'a rien écrit. Il n'a fait que parler. C'est invraisemblable, du reste, au fond, de la part d'un fondateur. Il n'a rien écrit. Il n'a fait que parler. Il a été une source. Comment relier le premier évangile à cette source? Pour nous, ça ne pose aucun problème. Si on a la foi chrétienne, il y a la tradition qui fait le lien. Mais si vous supprimez la tradition, il faut expliquer l'authenticité, l'historicité des évangiles par rapport à la source. Or, il y a 30 ans, qu'est-ce qu'il y a entre deux? Il y a des milieux différents qui vivent de cette parole. Alors, l'herméneutique, vous comprenez très bien, c'est d'essayer d'expliquer comment l'écriture représente ce que tel milieu vivait du Christ à cette époque. Donc, référence au milieu, et non pas référence à la tradition. Je crois qu'une fois qu'on a compris ça, on fait un pas en avant. Et c'est très simple, c'est la question du mystère de la parole vivante et de l'écriture. Comment l'écriture est-elle reliée à la source? C'est tout le problème. Je comprends très bien qu'au point de vue purement historique, le problème est très très fort. C'est vrai, c'est très très difficile de dire quelqu'un qui écrit sur une personne 20 ans après sa mort. Vous voyez ? On voit très bien aujourd'hui. Hein. On dit, quand on a connu Marthe Robin, on dit, mais il faudrait qu'on écrive tout de suite sur elle. Ceux qui ont été témoins, ceux qui l'ont vue. S'ils meurent tous, qu'est-ce qui va se passer ? Dans 30 ans, quelqu'un va se mettre à écrire sur elle. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il n'aura pas les témoins immédiats. Et c'est vrai, quand il s'agit d'une chose humaine, il n'y a pas la tradition. La tradition est un mystère. Hein, c'est un mystère qui vient du Saint-Esprit. C'est la parole de Jésus gardée dans le cœur des saints. Gardée dans le cœur de Marie, gardé dans le cœur des apôtres, gardé dans le cœur des fidèles, et transmis comme une parole divine, et donc transmis avec une force tout à fait particulière qui fait que c'est une parole vivante. Vous voyez, si Jésus n'a rien écrit, c'est pour laisser la place à la tradition. Ça fait partie, vous voyez, de ce mystère. Je vous ai dit des effacements de Dieu. Dieu s'efface pour laisser passer devant la tradition, c'est-à-dire le peuple des saints qui garde la parole de Dieu. La tradition qui garde le mystère. Marie garde dans son cœur la parole de Dieu. Ça, c'est la tradition. C'est le Christ qui s'efface. Si le Christ avait écrit, il y aurait l'écrit du Christ. Et toute la tradition sera en référence avec cet écrit. Et donc l'écrit mesurerait la tradition. Tandis qu'ici, c'est la tradition qui enveloppe l'écriture et qui permet à l'écriture d'être une parole vivante. C'est par la tradition que l'écriture devient une parole vivante. Et qu'elle est une parole vivante. Tandis que si je supprime la tradition et que tout est en référence avec l'écriture, ce n'est plus une parole vivante. D'où la nécessité de l'herméneutique. L'herméneutique, je crois, c'est né en climat protestant. Il faut bien voir. Il faut toujours, au point de vue philosophique, voyez toujours quand quelque chose naît, voir à partir de quel moment c'est né. Ça, c'est une méthode tout simplement philosophique qu'il faut faire. À quel moment c'est né ? C'est né dans un climat protestant avec la philosophie heideggerienne. En plus de ça, c'est Heidegger qui a commencé. Et Heidegger l'a fait au point de vue philosophique par rapport à l'œuvre d'art, au sphinx d'Égypte. Je comprends très bien qu'il fasse au point de vue du sphinx d'Égypte. Comment voulez-vous comprendre le sphinx d'Égypte si vous ne l'enveloppez pas du milieu religieux dans lequel il est apparu ? Il y a des tas de choses que vous ne comprenez pas. Si vous ne voyez pas ça, pour une œuvre d'art, on a besoin d'une herméneutique pour expliquer une œuvre d'art. Ça aide. C'est pas absolument nécessaire. Le sphinx d'Égypte, si vous le voyez, il est intelligible par lui-même, sans herméneutique. Mais pour les petits vivants, ils ont besoin d'une herméneutique. Parce que s'ils ne comprennent pas le sphinx d'Égypte directement, ils ont besoin d'une herméneutique, ils ont besoin d'une explication. Je vous ai toujours dit cette chose très curieuse qu'il y avait de temps en temps, quand on allait de Fribourg à Berne voir une exposition, j'aimais faire ça avec mes étudiants quand je pouvais le faire. Alors il y avait le professeur d'histoire de l'art, qui était un professeur de langue allemande et de culture allemande. Alors, quand on était devant un tableau, c'était l'explication. Du côté philosophique, on regardait le tableau. Hein ? Puis après, peut-être, on demandait quelques petites explications. Mais on regardait d'abord le tableau. Vous voyez ? Deux méthodes totalement différentes. Deux approches totalement différentes. Est-ce que l'œuvre d'art parle par elle-même, ou est-ce que l'œuvre d'art doit d'abord être comprise à travers le halo historique. C'est ce que je vous disais hier à propos de l'inspiration. Il y a deux philosophies totalement différentes. Et c'est très intéressant de voir ça, parce qu'il faut comprendre ces choses-là. Il faut les saisir de l'intérieur. Il faut comprendre comment, de fait, où on est téléguidé par une herméneutique, où on est téléguidé par la réalité. Une œuvre d'art doit se comprendre par elle-même. Autrement, ce n'est pas une œuvre d'art. Je regrette. Ce n'est pas une œuvre d'art. C'est un instrument de cuisine. Pour un instrument de cuisine, vous avez la méthode. C'est bien évident, vous n'allez pas regarder une machine, qui fait de la compote, de la regarder en disant « je la regarde, oh, comme c'est beau !» Mais non, utile, instrument utile, la méthode. Mettez la pomme là et puis ça ressortira de cette manière-là. Alors à ce moment-là, et si vous la mettez mal, ça n'ira pas la méthode qu'il faut suivre. Hein, parce que c'est de l'ordre de l'utile. Et quand vous êtes de l'ordre de la forme et de la forme et la beauté ont son intelligibilité en elle-même. Vous voyez comme on ramène tout à l'ordre de l'utile, même la parole de Dieu. Et c'est assez effrayant par rapport à l'Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit Saint quand même qui est l'auteur principal de l'Écriture. C'est l'Esprit Saint qui est l'auteur principal de l'Écriture. Alors vous allez considérer que l'Esprit Saint n'est pas assez intelligent pour nous donner une parole vivante, qui se comprend à l'intérieur même, et qui a sa propre finalité. Mais j'insiste, parce que c'est tellement important, c'est comme ça qu'on supprime la foi. C'est comme ça qu'on supprime la foi, parce qu'on n'a plus le contact direct avec ce qui est source pour nous. C'est comme ça qu'on supprime l'intelligence. On fait que l'intelligence meure, parce qu'on n'est plus en contact direct avec la réalité. C'est comme ça qu'on supprime le sens artistique, parce qu'on n'est plus en contact direct avec l'œuvre d'art. C'est l'œuvre d'art qui actue. C'est l'œuvre d'art qui permet d'être éduqué au point de vue artistique. Mais ce n'est pas l'herméneutique, je regrette. L'herméneutique, ça fait partie des méthodes pour utiliser un ustensile. C'est ça. C'est... Pour l'utilité, la méthode prime. Pour la réalité, la méthode est secondaire. Elle n'est pas première. Alors, je reviens là-dessus. Ça, c'est pour que vous compreniez bien le mythe du teut. Hein. Et le mythe du teut montre que la parole vivante n'a pas besoin d'explications extrêmes en dehors d'elle. Parce que quand vous êtes en face d'une parole vivante, vous ne comprenez pas, vous posez la question. Vous dites, qu'est-ce que vous avez voulu dire quand vous avez dit ça? Mais vous ne faites pas une herméneutique. Vous ne dites pas, ah oui, il a dit ça parce que avant il y avait telle chose. Mais non, vous pouvez interroger directement. Mais vous interrogez directement. Vous dites, qu'est-ce que vous avez dit? Donc il n'y a pas besoin d'herméneutique, il y a un dialogue direct. Le dialogue direct avec la parole vivante. Tandis que quand l'écriture est séparée de sa source, oui, quand l'écriture est séparée de sa source, alors à ce moment-là, je comprends qu'on essaie de saisir le sens historique en voyant le point de vue du milieu. Ça remplace la tradition. Si la tradition est vivante, il n'y a pas besoin, parce que c'est une parole vivante. Donc vous voyez, c'est très important cette affirmation qui va très loin quand on dit que la parole de Dieu est une parole vivante. Je crois que c'est très très important pour nous. Elle est liée à sa source. Et la source de la parole, c'est la sagesse de la parole divine. La source de la parole humaine, ça peut être la sagesse humaine. Si vous avez affaire, ou la science, ou la bêtise. Ça peut être, hein, parce que quelquefois, il y a des paroles humaines qui sont reliées à une source qui est la bêtise. Il faut savoir faire le discernement. Comprendre si la parole est liée à la sagesse, à la science, ou à la bêtise, à l'ignorance. Et puis, lorsqu'il s'agit de la parole divine, elle est reliée à la sagesse. Elle est reliée à l'Esprit Saint. La cause principale de la parole de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Nous le disons dans le Credo. Donc, c'est l'Esprit Saint qui est source principale de la parole de Dieu. Donc, la parole vivante, c'est lié à la source. La parole de Dieu est efficace. Et pour montrer son efficacité, plus affilée qu'aucun glaive à double tranchant. Alors, comprenons bien, la parole de Dieu est efficace. La parole humaine n'est pas efficace. La parole humaine peut être vivante. Ça, c'est sûr. Il y a des gens qui ont une parole vivante et il y a des gens qui ont une parole morte. Ça, c'est sûr. Et elle est morte dans la mesure où vous relisez votre bouquin. C'est la grande tentation. On a des arrières, alors on lit. C'est plus une parole vivante. Tandis que la parole vivante, elle est reliée à sa source. Alors elle peut être plus chaotique, mais elle est reliée à sa source. Et plus elle est reliée à la source, plus elle est chaotique. Hein, parce qu'elle est plus vivante. La parole humaine peut être vivante. La parole humaine n'est jamais efficace. Elle a une certaine efficacité, c'est sûr. On disait qu'Hitler avait une parole qui faisait que ceux qui l'entendaient étaient pétrifiés. Il y a des gens comme ça. Quand ils parlent, on est suspendu. Donc leur parole a une certaine efficacité, je dis une certaine efficacité, parce que c'est une efficacité dans l'ordre de l'affectivité, ça remue le cœur, on a le cœur piqué, vous savez dans le début des actes des apôtres, après le discours de Pierre, ils avaient leur cœur piqué, comme dit le père Rosti, il traduit comme ça, donc ça montre bien l'efficacité de la parole de Pierre, parce que la parole de Pierre communique une parole divine qui est efficace. Qui convertit. La parole divine a ce privilège d'être efficace, c'est-à-dire de réaliser ce qu'elle signifie. Et c'est le propre de la parole de Dieu, de réaliser ce qu'elle signifie. Vous voyez, quand nous prenons la parole de Jésus adressée à Jean au pied de la croix, voilà ta mère. Cette parole est efficace. Elle change le cœur de Jean en un cœur d'enfant à l'égard de Marie. Alors que Jean, avant, était l'ami de Jésus, le disciple de Jésus, mais regardait Marie comme la mère de Jésus et non pas comme sa mère. La parole de Jésus est efficace, elle transforme le cœur de Jean. Et c'est vrai. Toutes les paroles de Jésus crucifié sont des paroles efficaces. Toutes les paroles de Jésus sont efficaces, parce que ce sont des paroles divines. Toutes les paroles des prophètes sont efficaces. Alors, d'où vient cette efficacité? D'où vient cette efficacité? Notre parole n'est pas efficace. Elle n'a qu'une efficacité secondaire. Parce que notre parole demeure dans l'ordre de l'intentionnalité. Comme le concept, il est intentionnel, c'est une forme intentionnelle, le concept. Si c'est une forme intentionnelle, le concept a une signification qui peut déterminer l'intelligence, et en ce sens-là, la parole humaine a une certaine efficacité dans l'ordre de la détermination et de la signification. Mais n'a pas d'efficacité dans l'ordre de la réalité existante. Parce que c'est dans l'ordre de l'intentionnalité. Tandis que la parole de Dieu n'est pas uniquement dans l'ordre de l'intentionnalité. C'est ce qui nous est dit quand on dit qu'elle est efficace. Alors ça reste très difficile à expliquer. La parole de Dieu a quelque chose de substantiel. Comment expliquer que la parole de Dieu a quelque chose de substantiel? Et c'est comme ça qu'elle est efficace. Autrement, elle ne serait pas efficace. Elle est reliée au mystère même de Dieu. Et le mystère de Dieu, la sagesse de Dieu, implique la toute-puissance de Dieu. La sagesse de Dieu est efficace, parce qu'elle est reliée à la toute-puissance. Et la toute-puissance, c'est le Dieu créateur. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Voilà l'efficacité de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une parole créatrice. La parole de Dieu peut être une parole qui nous engendre à la vie divine. La parole de Dieu est une parole qui augmente en nous la foi. Elle est efficace. Elle nous engendre à la vie divine. Elle nous fait vivre une vie nouvelle. Donc c'est une parole non seulement vivante parce qu'elle est liée à la source, mais c'est une parole vivante qui donne la vie. Elle a une efficacité, elle donne la vie, elle communique la vie. Ce n'est pas une parole qui communique l'essai, non. Puisque l'acte créateur de Dieu n'a pas d'instrument. Dieu, en tant que créateur, ne peut pas se servir d'un instrument. Donc quand je dis « Dieu dit » et « que la lumière soit et la lumière fut », comprenons bien. Dieu n'a pas dit que la lumière soit et la lumière. Il le dit pour nous, pour que nous comprenions que l'acte créateur de Dieu est immédiat. Et que l'acte créateur de Dieu passe par le verbe de Dieu, mais pas par une parole. Autrement, il y avait un instrument. S'il fallait que Dieu dise pour créer, il y avait donc un instrument qui serait la parole. La parole est un instrument. C'est un instrument qui me permet de communiquer avec vous. Donc c'est un instrument de communication. Alors faisons grande attention quand nous disons « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut ». Ne disons pas que la parole a été comme un instrument de la création. Ce serait faux. Pour nous faire comprendre que la parole de Dieu est efficace. Non, ce ne serait pas juste de dire ça. Mais la parole de Dieu est efficace dans l'ordre de la vie. Alors là, c'est vrai. Et c'est le mystère de la parole de Dieu et c'est le mystère des sacrements. Dieu se sert de la parole pour communiquer son amour, pour communiquer sa lumière, pour communiquer sa vie. Et la parole est vraiment un instrument dont Dieu se sert pour nous communiquer sa lumière. Elle est porteuse de lumière divine. Elle est porteuse d'amour divin. Donc vous voyez bien la différence, hein. Quand dans la Genèse il nous est dit, Dieu dit que la parole, que la lumière soit et la lumière fut, c'est pour nous expliquer que Dieu, immédiatement, en pensant et en voulant créer, crée. Mais Dieu ne s'est pas servi d'une parole pour créer. C'est pour ça que la création n'est pas une parole de Dieu. Ce que note saint Thomas avec beaucoup d'attention. La création n'est pas une parole de Dieu, tandis qu'au contraire, la révélation est une parole divine. Vous savez, parce qu'on a fait toujours les... Et on fait le parallélisme, c'est très vrai. Dieu se révèle à nous par la création. Dieu se révèle à nous. Dieu se manifeste à nous. Dieu se dévoile à nous par la création. Mais la création n'est pas une parole de Dieu. Et Dieu nous parle à travers l'Écriture, dans un enseignement. C'est la parole de Dieu. Et Dieu se révélera dans la face-à-face, au-delà, immédiatement, de toute instrumentalité. Vous voyez ? Donc il faut bien saisir ces trois niveaux que le Moyen-Âge prenait toujours, hein, et que saint Thomas reprend au Père de l'Église. Dieu se dévoile par la création. Dieu nous communique ses secrets par la parole. Et un jour, Dieu se dévoilera pleinement dans un face-à-face. Donc les trois niveaux, si vous voulez, de la manifestation de Dieu, du dévoilement de Dieu. Alors, comprenons bien, la parole de Dieu est efficace, parce que cette parole de Dieu étant liée à la source, non seulement est parole vivante, parce qu'elle est liée à sa source, mais elle nous communique la vie. Alors, comment se fait-il que la parole divine nous communique la vie ? On voudrait bien ça, ce serait merveilleux si notre parole pouvait nous communiquer la vie. si en parlant, on vous rendait plus intelligent. Ce serait merveilleux. Si en parlant, on rendait quelqu'un plus volontaire et plus capable d'aimer. Si en parlant, on lui permettait de devenir un artiste. Ce serait merveilleux. Non. On peut expliquer. C'est déjà beaucoup. Parce qu'on fait tomber des obstacles. On fait tomber des a priori. On peut vous mettre en contact avec la réalité. C'est la réalité qui nous enseigne. Et la parole sert d'intermédiaire. Mais c'est la réalité qui nous enseigne. Et la réalité nous enseigne directement. Et la parole est un intermédiaire. Et le jour où la parole remplace la réalité, on cérébralise. Parce qu'on n'est plus en contact avec la res. Et on cérébralise. Vous voyez le danger quand les philosophes disent que la parole est parlante. Hein, l'expression de Heidegger. Vous voyez cette transposition. Le nous pensant. La parole parlante. Est-ce que j'ai le droit de dire le nous pensant? Oui. Pourquoi? Parce que le nous est source de vie. Est-ce que j'ai le droit de dire la parole pensante? Non. Parce que la parole n'est pas source de vie. Sauf la parole de Dieu. La parole de Dieu est source de vie. Donc la parole de Dieu est parole pensante, est parole parlante. Seulement la parole de Dieu. Donc quand Heidegger dit ça, vous voyez la confusion. Et on avale ça. C'est merveilleux, c'est extraordinaire la parole pensante. La parole parlante, attention, attention. La parole, elle est un instrument. Elle n'est pas vivante et pas efficace. Elle n'est pas une source. Sauf la parole divine qui est reliée à sa source, et que parce qu'elle est reliée à sa source, et qu'elle est dans sa source, elle peut être une parole efficace. Donc elle peut être une parole parlante, parce que c'est une parole efficace. Mais comprenons bien que ce n'est vrai que de la parole divine. Parce que la parole divine étant reliée à sa source de vie, il y a la source toute puissante de Dieu, la toute puissance de Dieu peut être une parole efficace. Ma parole n'est pas efficace. Alors, au niveau de la vie, vous voyez, au niveau de la vie, la parole divine peut être dite source. Au niveau de la vie, pas au niveau de l'être. Je ne peux pas dire que la parole de Dieu est efficace au niveau de l'être. Parce qu'il n'y a que la création, il n'y a que l'acte créateur. Communique l'essai. Mais il communique la vie. Alors là, oui, parole efficace. Alors, cette efficacité, on va essayer de la préciser. Parce que par la parole de Dieu, l'Esprit Saint va agir en nous. L'Esprit Saint va être celui qui va pouvoir purifier. La purification, c'est toujours... Hein, séparer ce que l'homme a uni faussement et unir ce que l'homme a séparé. Vous savez bien, c'est la tactique du démon. Hein. Le démon ne fait pas autre chose que de séparer ce que Dieu a uni et d'unir ce que Dieu a séparé. C'est pour ça qu'il y a toujours une double tactique du démon, hein. Il n'y en a pas qu'une seule. Il y a toujours une double tactique. Il faut toujours, dans chaque cas, se demander... L'action du démon, est-ce que c'est un collage? Est-ce que c'est une abstraction, une séparation? C'est toujours très délicat, ça. Et c'est très important de bien comprendre cette action double de l'Esprit Saint, cette action double du démon contre l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint unit et l'Esprit Saint sépare. Et c'est bien ce qui nous est montré ici plus affilée qu'aucun glaive à double tranchant, elle pénètre jusqu'à la séparation de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle juge les pensées et les intentions des cœurs. Jusqu'où va la parole de Dieu ? Jusqu'où va l'efficacité de la parole de Dieu ? Et pour faire comprendre cette efficacité tout à fait particulière, on prend cette image que nous verrons la fois prochaine pour essayer de comprendre comment la parole de Dieu, dans son efficacité, purifie.
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez